Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio au Kalangou. L'émission qui réunit des confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser les faits marquant l'actualité de la semaine écoulée. Au menu du forum de la presse de ce soir, d'abord la situation qui prévaut au Tchad suite au décès du président Idriss Déby Itno le 20 avril dernier. Le chef de l'État du Niger, Bazoum Mohamed, est désigné médiateur par ses pairs du G5 Sahel dans la gestion de cette crise. Ensuite, nous parlerons de l'arrivée massive des réfugiés dans la région de Diffa suite aux attaques perpétrées par des éléments présumés de Boko Haram à Damasek au Nigeria. Et dans le même ordre d'idées, nous évoquerons la situation d'accès difficile à l'eau potable pour les déplacés de Tilia dans la région de Tawa. Enfin, volet éducation, nous parlerons de la récurrence des incendies dans certains établissements scolaires ces derniers jours. Aussi, nous reviendrons sur les mouvements de grève qui secouent les scolaires nigériens pour exiger du gouvernement la prise en compte de leurs revendications. Pour échanger autour de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Elhaj Mahamadou Souleyman, journaliste à Niger Inter. Bonsoir Elhaj Mahamadou.
Bonsoir Fadi.
Arimi Abachari, journaliste à la radio Alternative. Bonsoir Arimi.
Bonsoir.
Et Ousseini Issa, journaliste freelance. Bonsoir Ousseini.
Bonsoir.
Je suis Fatih Zakari à la présentation de ce forum. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 30 avril 2021. Le président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed, a été désigné médiateur dans la crise politique qui vient de naître au Tchad à l'issue d'une réunion entre les chefs d'État du G5 Sahel, le président français et le président de la Commission de l'Union africaine. Mohamed Bazoum a par la présente rencontre la tâche de mener les consultations nécessaires au maintien de la paix dans ce pays. Alors, quelle charge pour le président Bazoum Mohamed? Je commence par Elhaj Mahamadou Souleyman.
Merci bien. Je pense que Bazoum a été désigné avec le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani comme facilitateur, donc comme médiateur de la crise tchadienne. C'est tout à fait normal lorsque un pays frère est en difficulté, faire recours à d'autres frères pour en tout cas chercher à trouver une solution. C'est tout à fait normal. Mais il se trouve que au regard de notre voisinage et de la situation aussi donc d'insécurité générale au Sahel, cette situation pourrait paraître assez délicate. On en veut pour preuve justement de la présence des rebelles tchadiens et on a entendu le conseil militaire demander aux autorités de en tout cas de coopérer dans le sens donc de les traquer pour justement les faire entrer. Oui, c'est assez délicat pour celui qui est censé être médiateur parce que tout simplement on risque d'être parti. Alors que les questions d'être peut-être juge, c'est-à-dire que créer les conditions du dialogue entre les parties. Donc c'est cela, je pense, qui est un peu inquiétant. Mais au-delà de tout cela, je pense que les médiateurs vont mettre en avant l'intérêt du G5 Sahel, en tout cas, parce que il faut le reconnaître, le Tchad constitue une sorte de pilier, une sorte de garantie, je pense. En tout cas, on compte beaucoup sur le Tchad. La disparition du débit, effectivement, est ressentie comme un manque, en tout cas, difficile à combler. Donc, je pense qu'il est question, plutôt, au niveau des médiateurs, de se surpasser, donc, en tout cas, mettre leur talent de diplomate pour chercher véritablement, non seulement à faire en sorte que le Tchadien accepte, parce qu'aujourd'hui, si le Tchad bascule dans l'instabilité, franchement, vous voyez, nous, au Niger, au Burkina, au Mali, au Nigeria, en tout cas, la situation, vous voyez, en ce moment, ce n'est pas aussi surprenant de constater que la situation est déjà détériorée. Donc, je pense que ce qu'on pourrait souhaiter aux médiateurs, vraiment, c'est de créer des conditions que au niveau de Tchad, qu'il y ait une transition, en tout cas, acceptée par tous, un retour justement, en tout cas, peut-être à une vraie démocratie, mm-hmm. parce que j'ai comme l'impression c'est qu'on est en train de voir ce qui se passe entre les militaires et la société civile, mm-hmm. les forces politiques. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il va falloir que tout le monde accepte qu'il faut qu'il y ait de l'ordre, de l'anarchie. On ne peut pas vraiment avancer au niveau de situation, mmh. en tout cas déjà, où on fait face à des terroristes. Ils vont profiter davantage de cette situation, mmh. parce qu'entre-temps, ils vont chercher à gagner du terrain pour, en tout cas, prendre des positions de nature, effectivement, inverser la tendance pour, effectivement, conquérir nos pays.
Hussein Issa, Bazoum Mohamed a désigné médiateur de la gestion de la crise au Tchad. Quelle charge pour Bazoum Mohamed?
Je pense que Bazoum Mohamed a été désigné en même temps que le président mauritanien comme étant médiateur dans la crise. Et c'est, je crois, à l'occasion des obsèques du défunt président Déby. C'était vraiment une pure coïncidence parce qu'il y avait déjà la rébellion, la troupe de la rébellion qui était machin, qui ont décidé d'observer une trêve. Et je crois, dès le lendemain, il y a eu une prise de contact avec les forces. En tout cas, le chef rebelle a dit qu'ils sont disposés à négocier, mais le dialogue qui doit se faire dans le pays, ça doit être un dialogue et la transition qui va être menée, il faut que la transition associe tout le monde. Bon, on a vu par la suite comment ça a finalement tourné parce que depuis 72 heures, un peu 72 heures comme ça, la force tchadienne dit avoir chassé, comment je vais dire, les rebelles ou la colonne. Ils ont fait des prisonniers qu'on a montrés sur certaines télés. Il y a une partie qui a trouvé refuge. D'après un peu les responsables de la junte qui ont trouvé refuge ici au Niger, on a demandé au Niger de coopérer. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu la situation du Tchad, c'est qu'il n'y a pas que cette situation de rébellion. Il y a non seulement trois menaces qui sont là, il y a la rébellion qui est là, parce que quoi qu'on dise jusqu'ici, on ne peut pas dire que cette rébellion-là a été totalement défaite, n'est-ce pas? Et il y a non seulement ce problème, il y a également le problème des terroristes Boko Haram. Mais indépendamment de ça, il y a également la société aujourd'hui, parce que le problème, c'est un problème politique, social, militaro, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que la junte fait face à pratiquement à trois fronts. Maintenant, parce que quand on voit un peu ce que la junte est en train de dire, c'est que nous n'allons pas négocier avec les rebelles. Nous ne les considérons même pas comme étant des rebelles. Peut-être nous allons prendre langue avec les acteurs de la politique, la société. Mais avec ce qui s'est passé à travers les manifestations, je dis que c'est assez compliqué davantage. Je ne sais pas par comment Bazoum et son collègue vont pouvoir gérer cette situation, parce que c'est une situation inextricable. Câble, je ne vois pas comment ils peuvent parvenir, connaissant bien comment les Tchadiens fonctionnent, la société, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la junte, ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas accepter que le fils Déby devienne président pour les gérer encore, après avoir vécu 30 ans sous le joug Déby, ils ne sont pas prêts à accepter. Et moi, je connais un peu la zone, je sais de quoi je parle, c'est que c'est des gens qui ne vont pas, en tout cas, se laisser faire, et ça va être très compliqué de pouvoir amener, peut-être il y a une accalmie aujourd'hui, comme on dit, mais ce qui est sûr, c'est réparti. C'est un pays où karma, c'est un pays qui a vécu dans la guerre. En tout cas, il y a eu des temps d'accalmie, mais à chaque fois, quand Déby même a fait 30 ans, parce que ces 30 ans-là, Déby a dû faire face à maintes reprises à des rébellions. C'est pour ça que j'ai dit le travail qui les attend à lui, ils vont même peut-être jeter l'éponge, les deux. Parce que tant que ce n'est pas au niveau de la communauté internationale tout entière, je veux dire au niveau de l'UA, qu'on prend les choses en main, ça va être très compliqué.
Zaramia Bekari.
C'est ce que Hussein vient de dire. Hein. Mm-hmm. C'est compliqué, d'autant plus que depuis la mort de Déby, Boko Haram a frappé, 12 morts. Elle-même, la junte, a tué 5. Eux, ils disent 5, mais les manifestants disent 9. Mm-hmm. Donc, 9 manifestants. On ne sait pas combien de militaires et combien de rebelles sont morts dans tout ça. Autrement dit, la situation est compliquée. Mais être médiateur, c'est justement gérer une situation compliquée. Et toujours est-il que ce soit les Tchadiens ou d'autres nationalités, ça ne peut se régler qu'autour d'une table. Je crois qu'il est temps pour les Tchadiens de mettre vraiment à part de côté vraiment leur ego et de se parler. Parce que la succession telle que la communauté internationale et la junte a voulu que ça se passe sera extrêmement difficile aujourd'hui dans la situation du Tchad a imposé. Déby avait ses repères, avait sa façon de faire, qui ne peut pas être celle de son fils. Et donc, la moindre des choses, c'est d'amener vraiment toutes les parties. Et vraiment, Boko Haram, c'est difficile, sincèrement, de négocier avec eux parce qu'ils sont en bras de fer avec plusieurs autres pays. Il y a le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad. Et donc, c'est un peu difficile avec eux. Mais avec la société civile, avec les partis de l'opposition, et même la rébellion, moi, je pense que ce qu'il y a à faire, c'est d'amener la junte. Parce que pour ce qui est de la négociation avec la rébellion, c'est la junte qui ne veut pas. N'est-ce pas? La rébellion a dit qu'eux, ils sont prêts à parler. Et moi, je ne suis pas dans la logique où on dit non, notre pays est menacé par une rébellion. Non. Une rébellion, c'est des enfants de ce pays-là, n'est-ce pas? Déby est venu au pouvoir de cette manière. Hissène est arrivé au pouvoir de cette manière. C'est la pratique au Tchad. Et donc, tant qu'on ne considère pas que ces rebelles sont des Tchadiens, mais ils ne peuvent même pas ne pas être des Tchadiens. Et donc, la seule solution qu'il y a, c'est de s'asseoir autour d'une table. Et je crois que le président mauritanien et le président Bazoum, c'est à cela qu'ils doivent œuvrer. Ils doivent amener les partis, ils doivent les obliger à s'asseoir autour d'une table. Sinon, c'est toute la sous-région qui s'embrase. Le Niger par Difa, le Cameroun, le Nigeria qui prend d'ailleurs un coup déjà, ça se voit. L'absence, la distraction de la société, de l'armée tchadienne a fait que Boko Haram ne fait qu'avancer, ne font que frapper. Et si ça perdure, il n'y a rien qui va empêcher la rébellion aussi de marcher sur N'Djamena. Il ne faut pas se le cacher. Toutes ces personnes-là, comme l'a dit Hussein, ils se connaissent, n'est-ce pas? Souvent, c'est des parents entre eux, n'est-ce pas? C'est des cousins, c'est des oncles. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait ça. Et donc, il faut vraiment prendre ça en compte, montrer à tout un chacun que c'est dépassé aujourd'hui. Les problèmes que nous rencontrons tous, n'est-ce pas, sont au-delà de ces considérations de personnes, d'orgueil. Tu m'as frustré il y a 20 ans, et il faut que je revienne prendre le pouvoir de la même manière il y a 30 ans, et ainsi de suite. Je crois que Bazoum et le président mauritanien, c'est cette tâche-là qui est la leur. Il n'a pas à intervenir si les rebelles Tchadien passe par le Niger. Il ne faut pas se cacher aussi de l'autre côté. C'est l'une des parties où la frontière est la plus poreuse. Parce que c'est le même peuple, parce que tous sont des parents, les personnes qui vivent autour de ces frontières-là. Donc, même quelqu'un, un rebelle peut même rentrer et ne pas se rendre compte. On peut ne pas se rendre compte. Donc, vraiment, c'est la négociation qu'il faut, à mon avis.
Merci. Les militants de l'opposition et de la société civile se sont manifestés pour exiger la dissolution de la junte militaire. Des manifestations qui ont occasionné des morts d'hommes. Le médiateur Bazoum Mohamed fait donc face à une crise à deux volets. Celle interne et la question de la rébellion. El Hadji Mamadou Souleyman, comment doit-il faire face donc à cette situation?
Je pense là aussi, il va falloir être très clair. Vous voyez par exemple que Idriss Déby vient d'être élu pour son sixième mandat. Vous voyez que franchement, tout se passe comme si c'est cette démocratie, en tout cas vraiment forcée, où bon, le système est établi, il n'y a pas d'autre alternative, c'est toujours le chef qui gagne les élections. Et je pense que les contestations, le discours qu'on entend, qu'on n'est pas d'accord à une certaine dynastie, tout simplement montre que le niveau de frustration au niveau du peuple tchadien, qui font que véritablement les médiateurs doivent convaincre les uns et les autres d'asseoir véritablement une base saine, en tout cas, pour qu'il y ait des élections libres et transparentes, pour que le mode de la gouvernance du pays, en tout cas, soit accepté par tous. C'est ça la condition de la paix. Et parce que Déby lui-même, il l'a dit, il n'a jamais été heureux parce que tout simplement, quand tu gouvernes dans ces conditions, effectivement, tu ne peux pas être tranquille. Parce que quelque part, tu sais, tu détiens ton pouvoir d'abord par la force. Alors que lorsqu'on crée vraiment les conditions, en tout cas, normales, une démocratie, ou en tout cas, les forces politiques peuvent compétir honnêtement et donc conquérir le pouvoir d'État, je pense que cela pourra effectivement créer plus de confiance et mobiliser tout le peuple, en tout cas dans le sens d'une démocratie acceptée. Il y a quand même l'autre danger, tout le monde se plaint en tout cas, les forces coloniales en tout cas, qui sont toujours là en tout cas à vouloir empêcher à ce que le peuple en tout cas puisse s'exprimer. Donc je pense que là aussi les médiateurs doivent être sur le don de ce pouvoir en tout cas, de chercher en tout cas une certaine inclusion.
Ousseyni Issa, les autorités tchadiennes demandent donc à l'État du Niger d'aider à traquer les rebelles qui se trouvent entre Ngourti et Nguingimi. Va-t-il accepter?
Je pense que des opérations sont déjà en cours dans ce sens. Clairement, je crois que d'après les informations que j'ai, il y en a qui ont décidé de retourner de l'autre côté. Maintenant, je ne sais pas si c'est tout le monde, parce que tout à l'heure, Armi vient de dire, c'est que c'est deux pays, là, le Tchad et le côté machin d'IFA, c'est la même région, pratiquement c'est la même région. On ne peut pas faire la distinction entre, pour dire celui-là, c'est un citoyen de Tchad. Oui, c'est un peu comme le côté Nigeria aussi. Quand ils sont là, tu ne peux pas faire la distinction. Mais ce que je veux dire sincèrement, c'est que la situation est critique, la situation est inconfortable. Bazoum médiateur. On sait comment la junte a été imposée. Voilà un décès. Voilà, on bombarde le fils du défunt. Et bon, il y a ce ressentiment là. Quand les Tchadiens, ils n'ont pas connu à quel moment l'autre a pris le pouvoir. Ils n'étaient même pas nés lorsque Déby avait pris le pouvoir. N'est-ce pas? Et il y a eu ce ressentiment-là. Et quand on voit le président français venir dire, bon, voilà, vous allez, on va imposer, ça va être une transition. Il n'y a pas eu de contestation de la part de la France. Tout le monde a su. Ils ont accepté le fait accompli. Et ça, ça a choqué. Ça a choqué. Et c'est ça, un peu, comment veut dire, l'effet déclencheur, même des manifestations, parce que les manifestants même le disent, ils ne peuvent pas accepter qu'on vienne leur imposer. Moi, j'ai dit, le mécanisme était là. Le mécanisme démocratique était là. Quand le président est décédé, normalement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit pouvoir prendre les choses à main. Mais pourquoi ils vont dissoudre la Constitution, dissoudre les institutions et tout et tout? Mais c'est inquiétant. C'est un coup d'État. Normalement, ça doit pouvoir continuer à fonctionner, la démocratie. À partir du moment où c'est sur la base de ces institutions-là qu'il y a eu des élections et autres, ça veut dire que c'est la dynastie. Et c'est ça qui fait que ça va être très difficile pour les médiateurs, les deux médiateurs, de pouvoir régler ce problème-là. Parce que je vois mal que ces gens-là, ils acceptent encore que le fils débute. Parce qu'on dit 18 mois de transition. C'est bien beau. Chaque fois, dans tous les pays comme c'est ça, c'est comme ça. Chez nous, en Afrique noire. Mais quand la personne s'installe, on va créer les conditions pour que cette personne qui a été à la tête de la transition, tant qu'il n'y a pas de garde-fou, et un pays où c'est karma, les armes, c'est les armes. On ne peut pas mettre des gangs-fous au Tchad pour dire tu ne vas pas te présenter. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Moi, je le dis, je ne fais pas de langue de bois. La situation n'est pas facile à gérer. Les populations sont là. Ils vont continuer à manifester certainement pour dire non, ça suffit comme ça, comme ça a été le cas au Burkina Faso. Ça risque d'être le cas aussi, je ne le souhaite pas, mais je me dis, tel que je vois les choses se dessiner, ça risque d'être le cas au Tchad.
On va à présent écouter Abba Kyari. Quel risque pour le Niger d'abriter une bande à deux rebelles sur son territoire?
Non, mais je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait toute une colonne sur le territoire nigérien. Courir de façon... à ce qu'on veut, de la façon dont on veut décrire, je ne pense pas que ça arrive aussi facilement avec une rébellion tchadienne. Le culte du courage, vraiment la bravoure, c'est des valeurs très très respectées, n'est-ce pas, et valorisées, je dirais, que ce soit du côté de la rébellion ou que ce soit ou du côté de l'armée légal. Donc moi je ne pense pas que entre Nguingimi et Ngourti qu'on trouve des centaines de rebelles tchadiens, n'est-ce pas? S'ils ont reculé, ils vont reculer vers là où ils sont venus. Et donc je ne pense pas. Et maintenant là, c'est une zone de conflit pour le Niger. Le Niger est habitué à gérer des situations de ce genre, toujours avec des rebelles et l'armée tchadienne elle-même. Je pense que notre armée va contrôler, parce qu'ils ne vont pas venir pour se battre, les rebelles tchadiens. Peut-être que c'est un arrière, vraiment c'est juste reculer pour mieux sauter. Et ils ont dit, quand ils ont attaqué, ils sont en plusieurs colonnes. Et il y a des colonnes qui sont à l'est, ils ont dit, d'autres à l'ouest, donc vers le Niger. Mais je ne pense pas que c'est des armées et des armes partout entre Nguimi et Ngourti. Ça ne saurait être ainsi. Et donc vraiment, ce qu'il y a à gérer, c'est la situation réelle qui se vit pour le président Bazoum, hein, ce qui se vit actuellement en N'Djamena. C'est-à-dire qu'il faut vraiment amener tous les Tchadiens, tous ceux qui s'opposent aujourd'hui, à mettre de l'eau dans leur lait, et histoire vraiment de les faire asseoir autour d'une table et de faire respecter la démocratie telle que ça a été posée. Oui, il y a eu un coup d'État, parce que c'est par coup d'État que la junte est là, c'est lui qui doit être.
Arabie,
mais c'est aussi connu au Niger, en Afrique, il y en a eu. Voilà, c'est-à-dire il y en a eu au Togo, mais aussi en Côte d'Ivoire.
On passe donc à la deuxième partie du forum de la presse. Suite à l'attaque de Damasak au Nigeria le 13 avril dernier par des groupes terroristes, plus de 9000 réfugiés, soit 1300 ménages, sont arrivés au Niger dans la région de Diffa, en direction des villages de Gagamari et Chetemari, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires au Tchad. Alors, comment s'organisent aujourd'hui les autorités municipales pour accueillir ces réfugiés, El Hadj Mahamadou?
Ce que je disais tout à l'heure, que la situation est déjà détériorée et on se rend compte que quand on voit ce grand pays, le Nigeria, perdre franchement la bataille, parce que ce qui se passe, les nouvelles au Nigeria, en tout cas, en plus des enlèvements et ces pertes, je veux dire que ça fait peur. Donc, je me dis que ça vient tout simplement aggraver la situation, parce que déjà bien avant, il y a d'autres réfugiés qui sont pris en charge par les partenaires et l'État. Donc, ça vient encore davantage bousculer un peu donc l'ordre social. Tout cela, on voit ça en termes de moyens, de prise en charge alimentaire, l'éducation, l'habitat, tout cela, vous voyez, la santé. Donc tout cela vient franchement aggraver la situation, et plus l'insécurité augmente, plus nos États perdent la partie face à ces forces terroristes, plus effectivement, vous voyez, la situation devient vraiment ingérable, parce que tous ces réfugiés, lorsque on vient, on prend des villes entières, on se dit que le Nigeria, c'est quand même une force militaire extraordinaire. Mais on ne se fait pas d'illusions, c'est ça, malheureusement, la guerre asymétrique. Et c'est pourquoi je pense que au regard de ces défis, au regard de la réalité, il va falloir, que ce soit au Nigeria, au Niger, en tout cas au Tchad, dans nos pays, il va falloir qu'on pense à des unions sacrées, qu'on se dise que le mal, il est là, et on se rend compte que il ne fait que s'approfondir, la situation ne fait que se dégrader. Donc, franchement, il va falloir faire recours, en tout cas, à une union sacrée, c'est que toutes les forces, qu'on puisse être vraiment proactif, dans la mesure où, chaque année, on a pensé que, vous voyez, par exemple, quand Buhari était arrivé, on voyait le général expérimenté, voilà, rigoureux. Mais franchement, on se rend compte que le problème reste entier. Au Nigeria, en tout cas, les gens commencent à en avoir marre de le fait que l'État n'arrive pas à assurer. Et vous voyez, maintenant, on reçoit ces déplacés. Donc bon, moi je me dis que cela nous interpelle tout simplement dans la mesure où la situation sécuritaire au Sahel, en tout cas, on n'a que plus de peur. Parce que tout simplement, il a dit tout à l'heure à Rémi, la présence du Tchad. Vous voyez ce qui s'est passé, quand ils étaient venus ici donc, au niveau de la zone des trois frontières, on a appris qu'ils sont repartis. Donc tout cela en réalité crée une situation de peur. Et franchement, je pense que véritablement, il est grand temps que les décideurs, en tout cas, et tout le monde, qu'on puisse se dire qu'il faut vraiment les solutions qui gagnent. Parce que vous voyez le genre de situation qu'on est en train de vivre.
Ousseini Issa, les éleveurs transhumants d'autres régions, les populations autochtones et ceux qui ont fui les zones d'insécurité se sont regroupés autour de l'unique point d'eau du département de Tilia de la région de Tawa, ce qui entraîne une insuffisance d'eau potable pour ces populations. Ousseini Issa, quelle solution pour ces populations?
Mais vous me posez une question à laquelle je saurais vous répondre, parce que tout simplement, la solution, c'est l'État, la solution, c'est les partenaires. Je pense que c'est quand même une zone nomade, comme vous venez de le dire. Une zone nomade, normalement, on doit pouvoir faire le maximum de forage depuis tout ça. Si c'est un seul puits, les gens qui se sont rabattus sur ce puits, bien évidemment, c'est des transhumants, comme on dit. Ils sont là pendant un moment, ils vont continuer en fonction du pâturage. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, ils sont dans une situation parce que c'est lié un peu, non seulement à la crise qu'il y a eu, les attaques qu'il y a eu dans la zone, mais également les difficultés que les éleveurs rencontrent pour pouvoir trouver. Ça, c'est un problème qui a de tout temps existé. Maintenant, il revient à l'État. Normalement, dans des situations d'urgence comme ça, il revient à l'État de déployer les moyens pour pouvoir venir en aide à ces populations-là. Parce qu'ils sont là pour un moment bien donné, mais ils sont là, ça peut durer jusqu'à l'installation de l'hivernage. Quand l'eau va commencer à pleuvoir, ils vont peut-être quitter ces zones-là pour aller dans des zones un peu plus viables. Mais sinon, il y a les partenaires également, les partenaires humanitaires qui sont là. Et quelque part, c'est carrément les partenaires humanitaires qui font même le travail de l'État. Il faut le dire. Il faut le dire. S'il n'y avait pas ces partenaires humanitaires-là, il y a des zones où ils n'auront rien absolument. Tout à l'heure, vous venez d'évoquer le cas des gens qui ont quitté, comment ça s'appelle, la Damasak, pour venir dans la région de Diffa. Il faut aller voir sur le terrain. Vous allez constater que tout est pris en charge par les partenaires qui commencent malheureusement à s'essouffler, malheureusement, parce qu'ils sont là, les moyens sont limités, ils le disent aussi, les moyens sont limités, parce qu'il n'y a pas qu'au Niger qui a ce genre de crise, il y a d'autres pays qui sont confrontés aussi à ce genre de crise. C'est que l'État doit pouvoir, dans le cadre de sa politique, prévoir un fonds conséquent sur le budget par rapport à des situations comme ça. N'est pas devoir attendre chaque fois. Et je le dis, je vais le dire, même devant n'importe qui, sur le terrain, c'est comme ça que ça fonctionne. On donne des espaces, les partenaires techniques viennent, ils viabilisent les tentes, tout et tout, les biens alimentaires, les biens non alimentaires, c'est souvent eux qui fournissent. Voilà la situation sur le terrain.
La situation d'accès à l'eau potable est présente dans plusieurs localités du pays. Alors, quels sont les défis qui attendent les nouvelles autorités, particulièrement les élus locaux?
En fait, en cas de déplacement de population, parce que c'est à Tilia aussi, c'est ce qu'il y a eu à partir de Damasak, mais plus récemment encore à partir de Guédam, à 35 km de Mayné-sur-Oie. C'est une grande ville comme Mayné elle-même ou Diffa qui a été envahie. Et donc la population est partie. Et beaucoup de vidéos circulent sur ça. Même si dernièrement, les sources disent aussi que certains ont commencé à rejoindre leur domicile et que les occupants se sont retirés. Donc en cas de déplacement, qu'est-ce qui arrive? En fait, le peu qu'il y a, c'est-à-dire à boire, à manger, à s'abriter et partager, la pression sur l'environnement devient plus grande. C'est pour sur les ressources particulièrement. Donc, si c'est de l'eau, il faut partager avec une population qui double subitement. Si c'est le pâturage, c'est la même chose. Et ça, c'est connu des partenaires humanitaires, c'est connu de l'État. Mais l'État est souvent pris de vitesse. L'État n'arrive souvent pas, l'État n'a pas les moyens de faire face à ce genre de situation. C'est les humanitaires qui sauvent la situation. Et donc, je crois que plusieurs organismes doivent effectuer le déplacement dans ce, parce que c'est quelque chose d'aussi sensible que l'eau qui manque. C'est vraiment dramatique en réalité, c'est très vite transformé vraiment en une en hécatombe. Vraiment, il faut que les programmes WASH des organismes vraiment déferlent vers ce sens, dans ce sens-là, rien que dans le cadre, au moins dans le cadre des programmes d'urgence, parce que chaque organisation internationale a un programme d'urgence, donc qui s'étale sur un mois, sur deux mois, au moins pour pouvoir stabiliser la situation. Donc, et laisser à ceux qui interviennent de façon plus durable et laisser aussi à l'État. Et donc, l'État doit pouvoir mobiliser. L'État doit pouvoir faire le plaidoyer nécessaire de ce qui se passe. Parce que moi, c'est regrettable, mais j'ai tendance à voir que la situation dramatique aux frontières de notre pays, aux trois frontières, passe aujourd'hui plus ou moins sous silence. Il faut voir les chaînes internationales, on ne parle pas trop du Niger. Sur nos chaînes nationales, on ne parle pas trop du Niger. Il faut dire la vérité sur ce qui est en train de se passer. Et c'est de cette manière seulement que les partenaires peuvent se mobiliser. Mais l'État ne doit pas se sous-estimer le peu qu'il peut faire. Il doit le faire parce que c'est sauver au moins une vie, la vie d'une famille, la situation d'un village. C'est ainsi que ça marche. Mais c'est extrêmement difficile, encore qu'il faut s'approcher vraiment de déplacer eux-mêmes pour le savoir. Voilà, du jour au lendemain, des gens qui quittent leur chez et qui se retrouvent sans rien, je vous assure que c'est extrêmement difficile.
Merci, Aramy. La troisième et dernière partie du forum, partie consacrée à l'éducation. Plusieurs incendies sont enregistrés dans les établissements primaires à travers la ville de Niamey qu'à l'intérieur du pays. Une situation qui devient de plus en plus inquiétante et qui doit tous nous interpeller. Alors, qu'est-ce qui explique la récurrence des incendies dans ces écoles, El Hadj Mamadou?
Franchement, c'est assez révoltant ce qu'on constate depuis d'abord le plus dramatique aux Pays-Bas, au quartier Pays-Bas, où il y a 21 ou 22 innocentes victimes, on s'est rendu compte que la situation s'est dégradée par-ci, par-là, on déclare des incendies, même à l'intérieur du pays. Alors, si c'est l'origine, les causes de ces incendies sont criminelles, là, franchement, c'est bien déplorable. On a entendu jusqu'à ce que la police ou bien la justice confirme quelques cas justement dénoncés où on dit on a pris quelques personnes. En train de commettre leur fréfriture. C'est bien dommage, c'est une inconscience parce que à qui cela pourra profiter? Quel que soit votre statut, l'école, c'est pour tout le monde, c'est un bien public universel, donc tout le monde a besoin de l'école. Même si on voudrait améliorer le fait de se dire qu'en fait, on a plus jamais de classes en période, il va falloir, en tout cas, qu'on donne le temps à l'État véritablement pour créer les conditions justement pour qu'il n'ait plus besoin, plus en tout cas, de ces classes en période. Donc franchement, la récurrence de ces incendies interpelle plus, je pense que franchement, nous sommes dans un mois de Ramadan. Si c'est vraiment des personnes vraiment qui font cela, parce que bon, véritablement, la récurrence de ces incendies fait vraiment penser à ce qu'il y a des gens qui sont organisés véritablement à vouloir en fait forcer la solution, alors que leur façon de faire, elle est périlleuse parce que souvent les conséquences quand vous mettez du feu, ce que vous risquez, ce qui s'est passé, on a connu des pertes en vie humaine. Donc je pense que maintenant, si c'est maintenant d'autres causes, il va falloir en tout cas que l'État a vraiment, je pense, tous les moyens véritablement pour créer les conditions, en tout cas, d'arrêter cette situation, en tout cas, de sécuriser les... Parce que je me dis que on ne peut pas peut-être décider que... Peut-être à Niamey, on peut dire que dans une décision, peut-être en mettant les moyens, donc d'arrêter les classes en période, mais aussi chercher à vraiment mettre le feu de cette façon-là, je pense que franchement, c'est très barbare et très regrettable, vraiment.
Ousseyn Issa, où se situe la responsabilité?
La responsabilité, c'est à tous les niveaux. D'abord, au niveau étatique. Au niveau étatique, je veux dire le gouvernement, ensuite les autorités même de l'éducation, parce que c'est hiérarchisé. Ça veut dire qu'il y a un abandon de l'école qui est là, tout le monde le sait, notamment l'école publique. L'école publique est à l'abandon. Quand il est dit, souvent les gens s'offusquent, c'est pas ça, c'est... Non, le problème c'est qu'au niveau de ces écoles-là qui sont en train d'être, en tout cas de connaître, de cramer, l'école, c'est une institution, on doit pouvoir mettre des gardiens. Souvent vous allez trouver ces écoles, il n'y a même pas de gardiens. Quand les enfants, l'enseignant et les élèves, ils rentrent à la maison, il n'y a personne. À ce moment, l'école devient vulnérable. Normalement, on doit pouvoir mettre des gardiens. Et l'idéal serait de faire en sorte que progressivement on puisse finir avec les classes en faot. Quand le président Youssouf était arrivé, il avait demandé, il avait dit qu'ils allaient mettre fin à ça. En 10 ans, il y a eu beaucoup plus de classes en paillotte qu'au début. Voilà, c'est des problèmes comme ça, c'est des engagements qu'on prend, mais jamais ça n'aboutit. Et ça, moi j'ai dit, il faut se dire une chose, c'est que si on veut développer, il faut passer par l'école. C'est pas parce que c'est l'école publique, parce que bon, c'est l'abandon de l'école publique. L'école publique qui y va, c'est les enfants des pauvres. Les gens aujourd'hui, il y en a ceux qui ont les moyens, ils amènent leurs enfants ailleurs. Ils ne vont pas laisser les enfants, comme on avait dit. Même s'ils ont un minimum de moyens, ils préfèrent mettre les enfants parce que l'enfant a plus de chances d'étudier dans une école privée que de rester dans ces écoles. Ou non seulement la qualité n'y est pas, les conditions d'études n'y sont pas. Et il y a tellement de facteurs qui font que, bon, mais ça ne dit rien à personne à la limite. Rien, absolument rien du tout, et c'est un crime. Et il y a des responsabilités à situer. Les responsabilités, c'est au niveau gouvernemental, c'est au niveau des autorités de l'éducation. Sinon, les parents, ils font ce qu'ils peuvent faire, c'est d'inscrire les enfants à l'école, d'essayer de les accompagner. Maintenant, on a même tendance à vouloir tout réverser sur les parents, même à travers les coges, ou comment on appelle, où on dit aux enfants, coges ou machin, on dit chaque fois, il faut amener 500, il faut... Non ! L'État ne peut pas se désengager totalement comme ça. D'accord, il faut bien que les parents contribuent. Mais on ne peut pas dire aux parents, le gardien, même c'est les parents qui cotisent pour le payer, ainsi de suite. Voilà, c'est des problèmes qui sont là. Il faut les solutionner forcément.
Arami, parlons à présent de ce mouvement d'humeur des étudiants à l'université de Zender pour exiger la satisfaction de leur plateforme revendicative. Et pendant ce temps aussi, le comité directeur de l'Union des scolaires du Niger, USN, lance un mot d'ordre de suspension des activités académiques dans l'ensemble du pays pour exiger du gouvernement la satisfaction de leurs revendications restées en souffrance depuis quelques temps. Et selon vous, comment résoudre définitivement ces problèmes devenus de plus en plus récurrents ici au Niger?
En fait, à commencer par... Le feu. Au niveau des classes en paillotte, jusqu'à ce que les étudiants, donc leurs grands frères, posent, nous démontre tout simplement là où l'école s'était rendue dans notre pays. L'école est à l'abandon. Les grands, ils ont des façons de poser leurs problèmes. Mais pour les petits, on a vu comment ça s'est produit. Ça a fini par des pertes en vie humaine, 22 enfants calcinés, vraiment dans des classes, je ne sais même comment décrire. Écoutez, de tout temps, ça fait 30 ans, de 90 à aujourd'hui, ça fait 31 ans pratiquement que tous les problèmes-là sont posés. Chacun qui vient fait endormir les autres. Et ils continuent sans résoudre les problèmes. Les problèmes, donc, ne font que s'amasser. Dire comment, écoutez, c'est un problème de ressources, de moyens financiers, de ressources humaines. De quoi les étudiants et les élèves ont besoin, c'est d'enseignants de qualité, de classes de qualité, et ne demandent que l'amélioration de leurs conditions, comme on dit, comment est matériel, on dit généralement.
Il y a un terme
consacré à la matière, n'est-ce pas? Quand des bourses, j'ai entendu la dernière fois un représentant des étudiants qui disait que les boursiers de l'année dernière, ceux à qui on a attribué la bourse l'année dernière, jusqu'à cette année, n'ont pas touché leur première bourse. Est-ce qu'il y a une volonté de les payer sincèrement? Maintenant, il faut qu'ils sortent, l'enfant de quelqu'un va mourir, et après on va dire non, ce n'est pas arrivé, on va se mettre à payer 6 mois de bourse, 12 mois de bourse. Mais c'est de faire, c'est de programmer. L'école, ce n'est pas du hasard. L'école, c'est ce qui sous-tend tout ce qu'on est en train de vouloir faire pour notre pays. Tant que à l'école, ça ne va pas, ça n'ira nulle part. Et les gens qui sont au pouvoir actuellement le savent, nous, la société, tout le monde a une part de responsabilité. Mais c'est de la responsabilité de l'État de payer des bourses, de créer des conditions d'études vraiment adéquates pour ces enfants-là. Malheureusement, ils n'arrivent pas à le faire. Et moi, à mon avis, c'est la volonté qui manque. Parce que dès que ça se complique, on ferme l'université de Niamey, on ferme l'université de Zender, on décapite le mouvement, on va dire que c'est l'opposition qui les pousse, ainsi de suite, ça a toujours été. Finalement, l'opposition là est où, on ne sait pas. Et donc, vraiment, c'est le courage qu'il faut d'affronter. Là, il y a deux semaines, je disais ici que tant qu'on va se recroqueviller derrière pour dire que l'État n'a plus les moyens de faire face à la charge de l'école, ça n'ira pas. Parce que il n'y a personne qui va venir faire ça. Tous ceux qui sont là actuellement, on a vécu les années 90 ensemble, n'est-ce pas? On nous avait balancé ce qu'on a appelé le programme Éducation 3, la double vacation. Ceci, cela, on s'est révolté. À l'époque encore, il y avait un minimum de respect pour ce qui est de l'écolier et du scolaire, n'est-ce pas? On nous a tué trois camarades et on nous a satisfait pendant trois ans. C'était plus ou moins l'accalmie parce qu'on avait des satisfactions dès qu'on bouge. Mais après, c'est fini. Après, c'est absolument fini et c'est l'abandon. Le contractuel a commencé, comment on appelle, bénévolat ou quoi, là, à l'école, a commencé. Les classes en période ont commencé.
Oui, le volontariat.
Mais ce n'est plus des écoles que nous avons, sincèrement. Ce n'est plus des écoles. Donc, ce qui a lieu de faire, il faut s'arrêter, vraiment prendre le taureau par les cornes et faire face. Vraiment, c'est une année, heureusement, hein, ce qui est bien, j'ai appris en verrant que le président va présenter sa politique éducative demain aux partenaires devant les médias. J'espère que c'est quelque chose de concret, parce que c'est fait quand même promptement, il a été prêté serment il n'y a pas longtemps. Si déjà il a un programme comme ça, j'espère que ça sera salutaire pour l'école. Il n'y a pas de la magie. Tu traverses la frontière ici seulement, d'ici le Burkina, le forme de classe change. Tu rentres de l'autre côté au Bénin, tu vas voir des enfants marcher en brousse en train d'aller, mais c'est dans de vraies classes qu'ils vont étudier. Sincèrement, il ne faut pas abandonner, c'est nos enfants, c'est l'avenir de ce pays-là. On est dernier aujourd'hui, on ne doit pas être dernier demain. Mais si on les abandonne, ça sera pire, peut-être c'est le pays même qui va disparaître.
Nous sommes donc au terme du forum de la presse du studio Kalangou. Nous étions en compagnie de El Hadji Mahamadou Souleymane, journaliste à Niger Inter, Aramia Abba Kiari, journaliste à la radio Alternative, et Ousseyni Issa, journaliste freelance. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih et Zachary. La réalisation, Mustapha Ayouba, et la technique, Seyni Issaka. Rendez-vous donc samedi de 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec Actu des jeunes dans 5 langues suivies de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa et le dimanche, le forum en Germa. Merci, le programme continue sur le studio Kalongou.